Note sur l'Épître aux Galates, chapitre 1er.
Lecture de la parole. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux assemblées de la Galatie. Grâce et paix à vous de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent qui n'en est pas un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait, outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, maintenant aussi je le dis encore, si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Or je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Car moi, je n'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. Car vous avez ouï dire quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais outre mesure l'assemblée de Dieu et la dévastais, et comment j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les nations, aussitôt je ne pris pas conseil de la chair ni du sang, ni ne montai à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allai en Arabie, et je retournai de nouveau à Damas. Puis, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai chez lui 15 jours. Et je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Or, dans les choses que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Ensuite, j'allai dans les pays de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en Christ, mais seulement elles entendaient dire, « Celui qui nous persécutait autrefois » annonce maintenant la foi qu'il détruisait jadis, et elle glorifiait Dieu à cause de moi.
Lecture de l'étude. J'espère qu'il me sera donné de montrer, en examinant l'Épître aux Galates, que cette portion de la parole est conçue, et il en est nécessairement ainsi d'une révélation venant de Dieu, avec la même perfection de sagesse que nous avons eu l'occasion de remarquer dans d'autres livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, qu'elle est empreinte de la même évidence d'un but divin, et que le Saint-Esprit, ayant un objet spécial, subordonne tous les détails à la grande pensée et à la grande tâche qu'il a en main. Or, il est clair, même d'après un coup d'œil rapide, que l'objet de l'Épître n'était pas tant de proclamer la vérité de la justification par la foi, en contraste avec des œuvres de loi, que de la défendre contre les efforts de l'ennemi qui cherchait à l'ensevelir sous des ordonnances et sous une autorité humaine. En d'autres termes, elle est l'antidote contre le poison judaïsant de plusieurs qui faisaient profession du nom du Seigneur. Dans l'Épître aux Romains, il s'agit plutôt de publier des vérités positives. Dans celle aux Galates, de retrouver la vérité qui avait été enseignée et reçue, mais que l'ennemi cherchait à submerger en introduisant la loi comme étant avec elle un moyen de justification. Le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, s'applique à mettre entièrement à néant toute cette force de Satan, et c'est là ce qui donne un ton particulier à cette épître. Comme de coutume, les quelques versets du commencement portent l'empreinte de l'épître entière et montrent ce que le Saint-Esprit allait faire ressortir dans chacune de ses parties. Nous trouvons, naturellement, le choix d'expression le plus parfait. Tous les points étrangers au sujet sont évités, de manière à révéler dans un cadre limité la pensée de Dieu quant à l'état des choses parmi les églises dans la Galatie. C'est ce qui explique la froideur comparative du ton de l'épître, la réserve, pouvons-nous dire, avec laquelle l'apôtre leur parle. Je crois que la chose ne se retrouve dans aucune autre partie du Nouveau Testament. Et voici quelle en était la raison. Le mauvais état dans lequel les Galates étaient tombés ne provenait pas tant de leur ignorance que d'un manque de fidélité. Or, cela fait une grande différence. Dieu montre une très grande patience envers un simple manque de lumière, mais il ne souffre pas que ses saints agissent légèrement à l'égard de la lumière qu'il leur a donnée. L'apôtre était pénétré de la pensée de Dieu, et il nous l'a donnée dans une forme écrite, sans le moindre mélange d'erreurs humaines. Il nous a donné non seulement la pensée, mais les sentiments de Dieu. Or l'homme réserve sa censure amère pour ce qui est immoral, pour un homme coupable de friponnerie ou d'ivrognerie ou de quelque autre chose grossière. Toute personne d'une vie régulière serait sensible à ces choses. Mais ces mêmes personnes, qui sont vivement émues par le scandale moral, peuvent être indifférentes à un mal qui est mille fois pire aux yeux de Dieu. La plupart des gens ressentent l'immoralité, en partie parce que cela les touche eux-mêmes. Tandis que dans ce qui touche le Seigneur, ils ont toujours besoin d'être fortement exhortés et d'avoir la lumière de Dieu présentée de manière à porter dans toute sa force sur le mal. Satan n'est pas disposé à présenter l'erreur nue et sans déguisement, mais il l'orne généralement d'une mesure plus ou moins grande de vérité, ayant de l'attrait pour l'esprit. C'est ainsi qu'il séduit les personnes et les amène à refuser ce qui est bon et à choisir ce qui est mal. Nous apprenons de Dieu ce que nous devrions sentir à l'égard de mauvaises doctrines. Prenez l'épître aux Galates, comparée à celle aux Corinthiens, comme preuve de ce que j'affirme ici. Si vous étiez entré dans une réunion à Corinthe, vous y auriez vu une foule de gens bien fiers de leurs dons. Ils étaient charnels, faisant étalage de la puissance dont l'Esprit de Dieu avait revêtu ses dons. Car on peut avoir un don réel de Dieu employé d'une manière très charnelle. À Corinthe, il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient ouvertement scandaleuses. Dans les premiers temps du christianisme, c'était la coutume d'avoir ce qu'on appelle une agape, qui était en fait un repas ou un souper pris en commun après que les hommes avaient fini leur travail ou avant d'y aller lorsqu'ils pouvaient se réunir. À Corinthe, et ailleurs peut-être, ils associaient ce repas d'amour à la scène du Seigneur. Or, on peut bien comprendre qu'ils pouvaient aisément se trouver excités, car il faut nous rappeler que ces croyants ne faisaient que de sortir des corruptions et des ténèbres du paganisme. L'ivrognerie était très commune parmi les païens. Ils se faisaient même un point d'honneur de s'enivrer en l'honneur de leur Dieu. Ces saints de Corinthe ne doivent pas être jugés d'après la lumière que les personnes ont reçue depuis. Et même, c'est en grande partie par les fautes des premiers chrétiens que nous avons appris ce qu'est la moralité chrétienne ou ce qu'elle devrait être. Ils étaient comme des petits enfants sortant des mains de leur nourrice, et leurs pas étaient faibles et chancelants. il y avait trop souvent des ébullitions de la nature qui se montraient parmi eux comme parmi les païens. Il y avait, en outre, des partis parmi les saints. Les uns se rangeaient sous une bannière, et les autres sous une autre. Ils avaient leurs divers favoris qu'ils suivaient. D'autres même étaient tombés dans le mal le plus notoire, et d'autres encore se levaient pour défendre leurs droits et avaient des procès entre eux. Il y avait en toute manière du relâchement dans leur marche. Toutes ces choses se manifestaient parmi eux. L'ordre moral des choses était bien bas. Si nous n'avions pas ce qu'un apôtre a écrit à de tels gens, nous aurions pu considérer comme une chose impossible qu'ils soient en aucune façon des chrétiens. Mais, au contraire, quoique dans toute cette épître on trouve le ton de sainteté le plus élevé et la plus solennelle condamnation de leurs péchés, l'apôtre commence néanmoins d'une manière qui, plus on y pense en se rappelant l'état des croyants de Corinthe, est très frappante. Il commence par leur dire qu'ils étaient sanctifiés dans le Christ Jésus et saints appelés. Il leur parle aussi de la fidélité de Dieu par lequel ils avaient été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel contraste avec l'impulsion naturelle de notre esprit. Nous aurions pu être disposés à douter qu'il puisse y avoir parmi eux des convertis, sinon en bien petit nombre. Maintenant, d'où vient que Paul se sert d'expressions si fortes d'affection envers les Corinthiens, parmi lesquels il y avait un tel désordre, tandis qu'on n'en trouve aucune dans ce qu'il écrit aux Galates? Écrivant aux premiers, il les appelle l'Assemblée de Dieu. Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ, à l'Assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés. Je rends toujours grâces à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, de ce qu'en toutes choses vous avez été enrichis en lui, en toute parole et toute connaissance, de sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il aborde la question de ce qui était mal, et il continue d'en parler dans toute l'Épître. En écrivant aux Galates, au contraire, il dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux assemblées de la Galatie. Grâce et paix à vous, de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Versets 1 à 3. Pas un mot qui les mentionne comme étant en Christ ou en Dieu le Père. Pas un mot qui les mentionne comme étant des saints dans le Christ Jésus et des frères fidèles. Il dit tout simplement le moins qu'il soit rigoureusement possible de dire à l'égard de chrétiens collectivement ici-bas. Il parle d'eux comme des assemblées de la Galatie. Il ne les associe pas à d'autres, mais il les met, pour ainsi dire, tout seul, comme étant méchants. D'un autre côté, l'apôtre a soin de dire « Tous les frères qui sont avec moi aux assemblées de la Galatie ». S'il ne parle pas des saints en général, il parle universellement des frères qui étaient alors avec lui, de ses compagnons de service, qu'il associe à lui-même en écrivant aux Galates. Il avait une raison pour le faire. Il n'était pas seul dans son témoignage, quelles que puissent être les insinuations des faux docteurs. Tous les frères qui étaient avec lui s'identifiaient, pour ainsi dire, avec ce qu'il écrivait alors. En considérant la manière dont il parle de lui-même, nous y trouvons quelque chose de bien remarquable. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, etc. Il commence aussitôt sa controverse. Les premières paroles même sont un coup porté à la racine de leur notion judaïque. Il blâmait l'apôtre parce qu'il n'avait pas été avec le Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre. Quelle est la réponse de Paul? J'accepte, dit-il, ce que vous m'adressez comme un reproche. Je ne suis pas apôtre de la part des hommes, ni par l'homme. Il exclut complètement et en toute manière un acte quelconque de la part de l'homme pour nommer ou reconnaître. Son apostolat n'était en aucune façon de la part des hommes, quant à sa source, ni par l'homme comme intermédiaire. Rien n'aurait été plus aisé pour Dieu que de convertir Paul à Jérusalem. C'est là qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel. C'est là qu'avait d'abord éclaté sa violence contre les chrétiens. Mais quand Dieu le rencontra, il était loin de Jérusalem, poursuivant son ardente persécution contre les saints. Et là, aux environs de Damas, en plein jour, le Seigneur, depuis le ciel, invisible pour les autres, se révèle à Saul de Tarse, tout étonné. Il n'était pas seulement un saint appelé, mais un apôtre appelé. Apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et pour rendre la chose plus frappante encore, quand il fut baptisé, quel est celui que le Seigneur choisit pour en faire l'instrument de son baptême? Un disciple dont il ne nous est parlé que cette seule fois, comme d'un homme âgé et pieux qui résidait à Damas. Dieu mit un soin particulier à montrer que l'apôtre, appelé à une position éminemment importante, la plus importante fonction qu'ait jamais occupée aucun homme appelé à servir le Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, de montrer, dis-je, que Paul avait été ainsi appelé sans l'intervention de l'homme, sans l'autorisation de l'homme et sans être formellement reconnu par l'homme, en quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. Son baptême n'avait rien à faire avec sa qualité d'apôtre. On est baptisé comme chrétien, jamais comme apôtre. Paul s'en alla aussitôt en Arabie. Il y prêche l'Évangile, et Dieu le reconnaît aussitôt comme serviteur de Christ dans l'Évangile, sans aucune intervention humaine. Tel est, en réalité, le vrai principe du ministère, pleinement mis en relief dans l'appel et l'œuvre de Saul de Tarse, désormais l'esclave de Jésus. Il y a néanmoins des personnes qui pourront objecter qu'il est expressément parlé dans le Nouveau Testament de ceux qui ont été mis à part par des hommes et qui ont reçu l'imposition des mains. Nous le reconnaissons pleinement. Mais dans certains cas, il s'agit d'une personne qui s'est déjà montrée qualifiée pour l'œuvre, puis mise à part d'une manière formelle par l'autorité apostolique pour une charge locale et revêtue d'une certaine dignité aux yeux des saints, peut-être parce qu'il n'y avait en fait pas beaucoup de dons. Car il faut remarquer qu'il n'est pas dit de l'ancien qu'il soit un docteur, mais simplement propre à enseigner. La charge extérieure n'est pas nécessaire lorsque la puissance existe à un haut degré. La puissance se fait sentir. Les saints de Dieu seront toujours à la longue obligés de la reconnaître. Dès lors, quand un homme a reçu un don du Seigneur, il devrait être le dernier à avoir de l'anxiété à ce sujet pour ce qui le touche lui-même. Dieu sait comment faire respecter le don si les hommes manquent de voir ou d'entendre. Mais lorsqu'il y a des hommes qui ont des qualités graves et pieuses, sans une puissance qui soit évidente pour tous, ils ont besoin d'être investis d'autorité s'ils doivent avoir du poids auprès de gens qui manquent de spiritualité. C'est pour cela, il semble, que nous voyons un apôtre ou un délégué apostolique faire une tournée, prendre la direction en gouvernant, nommer à des charges, donner des conseils, là où il y avait quelque chose qui allait mal ou qui manquait parmi les saints. Le fait est que l'on confond la charge d'ancien avec le ministère. Les anciens étaient établis par ceux qui tenaient eux-mêmes directement de Christ une autorité supérieure, mais il n'y eut jamais une telle chose que de consacrer un homme pour prêcher l'Évangile. Dans l'Écriture, c'est le Seigneur, et le Seigneur seul, qui appelle les hommes à prêcher. il n'y a pas, dans tout le Nouveau Testament, un seul exemple du contraire. C'est un désordre positif et une chose positivement contraire à la parole de Dieu qu'un homme recherche une commission humaine afin de prêcher l'Évangile ou pour prendre la place d'un docteur en relation avec les assemblées chrétiennes. Dans les temps apostoliques, il n'y eut jamais une telle chose qu'un homme établi pour être docteur, pas plus que pour être prophète. Mais parmi les anciens, il pouvait y en avoir qui étaient évangélistes, docteurs, etc. C'est pourquoi il est dit que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'ancien. Spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Les anciens, dont l'affaire était de présider, quand même ils n'étaient pas docteurs, étaient en danger d'être méprisés. Mais ils devaient être estimés dignes d'un double honneur s'ils présidaient dûment. Ils devaient être honorés comme une classe de personnes, et spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Plusieurs d'entre eux, outre qu'ils étaient des anciens, pouvaient aussi être docteurs, et cela aurait encore un surcroît de droit à l'estime des saints. Je ne désire nullement mettre de côté le fait qu'il y avait des personnes mises à part par l'homme, mais ce que je nie, c'est que tel soit le cas dans les classes ordinaires de ministère, pasteurs, docteurs, etc. Ceux-ci ne furent jamais établis par l'homme, en quelque manière que ce soit. Le corps entier de ceux qui sont ministres selon la parole est entièrement indépendant de la consécration. Le choix de l'assemblée trouvait sa place dans le cas des diacres, qui avaient soin des choses extérieures. Ils étaient établis par la sanction apostolique. Du moins, c'est ce qui fut mis en pratique en établissant les sept hommes sur l'affaire des tables à Jérusalem. Il en est de même encore à l'égard des administrateurs de la libéralité des assemblées d'entre les nations, dont il est parlé dans 2 Corinthiens 8, versets 19 à 23.
Et non seulement cela, mais aussi il a été choisi par les assemblées pour notre compagnon de voyage, avec cette grâce qui est administrée par nous à la gloire du Seigneur lui-même, et pour montrer notre empressement, évitant que personne ne nous blâme dans cette abondance qui est administrée par nous. Car nous veillons à ce qui est honnête, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Et nous avons envoyé avec eux notre frère, du zèle duquel, en plusieurs choses, nous avons souvent fait l'épreuve, et qui maintenant est beaucoup plus zélé à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Quant à Tite, il est mon associé et mon compagnon d'œuvre auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des assemblées, la gloire de Christ.
Ils furent choisis pour cette œuvre par les diverses assemblées, dont les contributions leur furent confiées. Les anciens étaient plutôt appelés à présider et à gouverner localement, quoiqu'il ne soit jamais donné à entendre qu'ils aient été élus par l'assemblée. Néanmoins, ils étaient formellement choisis par les apôtres ou les délégués apostoliques. Et le poids de ceux qui les choisissaient était sans doute destiné à leur donner une juste importance dans l'esprit des saints généralement. Le cas de Timothée est sans doute particulier. Il avait été désigné par prophétie pour une certaine œuvre bien spéciale, celle de maintenir la saine doctrine. Puis l'apôtre et le corps des anciens lui imposèrent les mains, et par là un don spirituel lui fut communiqué qu'il ne possédait pas auparavant. Il est évident qu'il n'y a aujourd'hui aucun homme vivant qui ait été doué d'une telle manière et appelé à une telle œuvre. On pourrait dire que, dans le cas de Paul, l'imposition des mains eut lieu, comme nous le lisons dans Actes 13. Qu'est-ce que cela montre ? Non pas certainement qu'il était un apôtre choisi par l'homme, car le Saint-Esprit déclare ici qu'il était apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme. Ce qui eut lieu à Antioche n'était, en aucune manière une consécration de Paul pour être apôtre. Il est évident, d'après bien des portions de l'Écriture, que bien des années avant qu'on lui ait imposé les mains, il avait été occupé à prêcher, et qu'il était l'un de ceux qui étaient reconnus comme prophètes et docteurs à Antioche. Acte 13, verset 1er.
Or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, et Barnabas et Siméon appelés Niger, et Lucius le Cyrénéen, et Manahem, qui avait été nourri avec Hérode le tétrarque, et Saul.
Je crois qu'il s'agissait alors de mettre à part Paul et Barnabas pour la mission spéciale pour laquelle ils étaient sur le point de partir, pour établir l'Évangile dans de nouvelles contrées. Assurément, quand le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », cela ne signifie pas que, jusqu'à ce moment, ils avaient été occupés, soit l'un, soit l'autre, à prêcher de leur propre volonté, sans l'autorité du Seigneur, et encore moins que le grand apôtre des nations ait été alors constitué tel par ses inférieurs. C'était donc, purement et simplement, une recommandation à la grâce de Dieu pour la nouvelle œuvre dans laquelle ils allaient entrer. Quelque chose de semblable pourrait encore avoir lieu de nos jours. Supposons qu'un homme, qui aurait déjà été occupé à prêcher l'Évangile en Angleterre, se sente pressé dans son cœur d'aller visiter les États-Unis d'Amérique, et que ses frères estiment qu'il est précisément l'homme pour cette œuvre. Ceux-ci pourraient, afin de montrer leur accord et leur sympathie, se réunir avec prière et jeûne pour imposer leurs mains sur le frère qui va partir. La chose, selon moi, serait tout à fait scripturaire. C'est ce qu'on a fait dans de tels cas. Mais ce n'est pas la consécration, c'est uniquement la recommandation à la grâce de Dieu de personnes déjà douées pour l'œuvre qui ont quelques sentiers nouveaux tracés devant elles. Mais ce que je considère comme antiscripturaire et même comme un péché positif, c'est d'insister sur une certaine cérémonie par laquelle un homme est obligé de passer avant d'être reconnu comme étant, effectivement, un ministre de Christ. Même si la chose est répandue, c'est une imposture de la tradition, sans le moindre passage de l'Écriture pour se couvrir. C'est uniquement quelque chose que l'homme a introduit, fondé principalement sur la sacrificature judaïque. Celui qui appartenait à la famille sacerdotale ne pouvait entrer dans ses fonctions sacerdotales avant d'avoir passé par un bon nombre de cérémonies. C'est ce que les catholiques romains, plus que tous les autres, ont imité dans la mesure qui leur est propre. Mais la chose étonnante, c'est que des hommes qui, dans leur langage, s'élèvent contre le papisme, ont continué à en imiter une de ses plus mauvaises parties. Car je crois que c'est sur ce point même que le Saint-Esprit est le plus attristé. L'effet de cela, c'est d'accréditer un bon nombre d'hommes qui ne sont pas ministres de Christ, et de discréditer un bon nombre d'hommes qui sont ses ministres, parce qu'ils ne passent pas par cette innovation particulière. Cela a pour effet de faire tout le mal possible, et d'empêcher tout le bien possible. C'est là un mal qui, tirant son origine même du judaïsme, est le plus grand obstacle concevable à l'action du Saint-Esprit dans l'Assemblée, dans le temps présent ou à n'importe quelle autre époque. Il en est qui pourront prendre un air grave en entendant ces remarques et dire qu'il n'est pas charitable de parler ainsi. Mais de telles personnes ne savent pas ce que charité veut dire. Elles la confondent avec l'indifférence. Et l'indifférence est la mort de la charité. Si vous voyez votre enfant avec les mains sur des charbons ardents, vous ne vous laisseriez pas empêcher de crier avec force, ni d'utiliser tout autre moyen énergique de le délivrer, parce que certaines personnes vous diraient qu'il ne convient pas aux chrétiens d'élever la voix ou d'avoir un accès de vivacité. Ainsi, dans le sujet qui nous occupe, il y a ce qui se lie à la bénédiction de l'Assemblée d'une part et à la malédiction de la chrétienté de l'autre. que d'horreurs en sont sorties. Le pape lui-même en est un produit, car si vous avez des sacrificateurs, il vous faut naturellement un souverain sacrificateur. Si vous avez les fils d'Aaron, vous avez besoin qu'Aaron aussi soit représenté. Le pape fut établi sur ce fondement même, et tout le système du papisme en dépend. Hélas, c'est un démon que le protestantisme lui-même n'a manqué d'exorciser. Paul, apôtre non de la part des hommes ni par l'homme, cela exclut entièrement l'homme, soit comme la source de son ministère, soit comme l'intermédiaire qui s'y rattache d'une manière ou d'une autre. La grande chose que nous avons à nous rappeler quant au ministère, c'est que sa source est dans les mains de Christ. Comme Paul le dit ici, par Jésus-Christ. Il ne dit pas de la part de Jésus-Christ. Je considère l'expression « par Jésus-Christ » dans ce contexte particulier comme beaucoup plus forte, et cela pour la raison suivante. Les docteurs judaïsants auraient pu dire « Nous admettons pleinement que c'est de la part de Jésus-Christ, mais il faut que la chose ait lieu par ceux qui ont été choisis et établis par le Seigneur lui-même lorsqu'il était sur la terre. Il faut que les apôtres soient le canal. » Dieu portait un coup de mort à la notion de succession apostolique. Dans sa grande bonté, il excluait, pour tout homme spirituel, un prétexte quelconque pour un pareil mal. Les Galates étaient probablement troublés et dans la perplexité de ce que, de son propre aveu, Paul était un apôtre entièrement en dehors des 12 autres. Pourquoi n'avaient-ils pas tous jeté le sort sur Paul, si Paul devait être l'un des apôtres dans le sens le plus élevé? C'est à cela qu'il répond ici. Il lie son apostolat avec Dieu et notre Seigneur, non seulement quant à sa source, mais encore quant au moyen, par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Voici encore un autre coup porté aux successionnistes. Ils avaient établi un contraste entre Paul et les 12 autres apôtres, au désavantage de Paul. Mais l'apôtre montre que, s'il y avait une différence entre lui et eux, c'est qu'il était apôtre par celui qui avait ressuscité Christ d'entre les morts. Les autres n'avaient été appelés qu'au moment où notre Seigneur était sur la terre, prenant sa place comme homme ici-bas. Paul a été appelé par Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il y avait une plus grande puissance, une plus grande gloire, une plus grande distinction, dans la mesure où il en existait, dans le cas de l'appel de Paul pour être apôtre, que dans celui d'aucun des autres. L'apôtre réduit à néant toutes leurs théories et introduit ce qui était spécialement sa place propre avec beaucoup de force. Paul est le modèle des serviteurs jusqu'à nos jours. En parlant du ministère, il aime à le placer sur ce terrain, le terrain sur lequel reposait son propre appel. Lorsqu'il est question de sa prédication, il dit « Nous croyons, c'est pourquoi aussi nous parlons » de Corinthiens 4. Il prend la chose sur la base la plus simple et la meilleure. Si un homme connaît la vérité, qu'il en parle. Il n'y avait pas besoin d'attendre quoi que ce soit. C'est à cet effet que le Seigneur agit dans l'assemblée. Aussi, quand il parle de dons relatifs au ministère, dans l'Épître aux Éphésiens, où la chose nous est présentée dans les formes les plus élevées possibles, sur quoi les fonde-t-il? Sur Christ monté en haut et donnant des dons aux hommes. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Le ministère tout entier, depuis ses fonctions les plus élevées jusqu'aux plus basses, est posé sur le même principe. Si on insiste en disant « Tout ce que vous avez dit à l'égard de Paul est très bien », mais cela ne s'applique pas aux ministres ordinaires. Je réponds que cela s'applique. parce que le Saint-Esprit nous enseigne, par le moyen de l'apôtre Paul, que lorsque depuis les apôtres et prophètes vous descendez aux pasteurs, docteurs ou évangélistes, ils sont tous placés sur cette seule et même base. Ils sont tous des dons venant du même Seigneur, sans l'intervention de l'homme, de quelque manière ou à quelque degré que ce soit. Mais alors, il y en a qui diront, qu'en est-il des anciens? Ici, vous avez tort, vous ne les avez pas. Je réponds, nous n'avons pas des anciens d'une manière formelle, parce que nous n'avons pas d'apôtres, et que nous ne sommes pas des apôtres. Il est clair qu'en cela, pour dire le moins, nous ne sommes pas plus mal partagés que tout ce qu'on appelle église ou secte, car il n'en est pas une, que je sache, qui ait des apôtres. En sorte que la véritable différence entre ceux qui se réunissent autour du nom du Seigneur Jésus-Christ et d'autres, c'est que nous ne prétendons pas avoir ce que nous n'avons pas, tandis que ceux-là le font qui prétendent en établir. Vous ne pouvez avoir des anciens établis sans apôtres. Nous pouvons pourtant avoir certaines personnes qui possèdent les qualités propres aux anciens, et de telles personnes doivent être reconnues. Mais imiter l'établissement des anciens, maintenant qu'il n'existe plus d'apôtres, c'est péché. Ceci peut suffire sur le sujet du ministère. Et que faisaient ces Galates? Dans quel but imposaient-ils la loi des chrétiens? Si le Seigneur s'est déjà donné lui-même pour nos péchés et a réglé cette question-là, supposez qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés et que néanmoins les péchés ne sont pas effacés, c'est nier l'efficace de son œuvre, sinon la gloire de sa personne. Il leur montre la vérité élémentaire même de l'Évangile, savoir que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. En sorte qu'il ne s'agit pas du tout de l'homme cherchant à acquérir une certaine justice, mais de Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, alors que nous n'avions rien, sinon des péchés. Et il ne l'a pas fait dans le but de replacer les personnes sous la loi et de faire de la loi leur règle propre comme chrétiens, mais il s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. Quel est l'effet produit lorsque des hommes adoptent la loi comme chrétiens? Cela les rend mondains. Il n'y a point d'exception. Il ne saurait y avoir une chose telle qu'un homme séparé du monde lorsqu'il est sous la loi. Nous ne sommes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Tel est le niveau de tout croyant, non pas de quelques croyants en particulier, mais de tous. Nous ne sommes pas dans la chair. Il y a ce qui est de la chair en nous, mais nous ne sommes pas dans la chair. Ce que l'apôtre veut dire là, c'est que Dieu ne nous regarde plus comme de simples hommes mortels, chargés de nos péchés, et ne nous traite pas comme tels. Mais Dieu nous regarde d'après ce qu'est Christ, en qui il n'y a point de péché. Et si nous considérons notre état comme chrétiens, il n'y en a point en nous, car notre nature a déjà été condamnée en la croix, et l'intention de Dieu n'est pas de prononcer deux fois la sentence sur elle. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est de vivre de Christ, d'entrer dans la bénédiction de cette vérité. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. La loi s'adressait à des citoyens de ce monde. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous racheta ou retira du monde, même pendant que nous sommes dans ce monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous sommes regardés comme séparés du monde par la mort de Christ, et envoyés dans ce monde par sa résurrection, mais envoyés dans le monde comme n'étant pas du monde, encore moins de ce monde qu'un ange. La mort de Christ nous place complètement en dehors du monde. La résurrection de Christ nous y envoie de nouveau, comme de nouvelles créatures, des messagers de la paix qu'il donne, entièrement à part de ce qui se passe dans le monde. Notre Seigneur dit, « Et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » il donne la même mesure et pour lui et pour eux. Et, en conséquence, après qu'il a été ressuscité d'entre les morts, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». L'apôtre se place avec eux devant Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est la bénédiction commune de tous les croyants, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. La chose remarquable, c'est que, quand Dieu se révèle comme celui qui donne la loi, comme Jéhovah, il n'entreprend pas de séparer des hommes du monde. On ne pourrait pas dire que les Juifs étaient séparés du monde. Ils étaient séparés des nations, mais ils étaient le peuple le plus important dans le monde. Et ils furent faits tels dans le but de maintenir les droits de Dieu dans le monde. Ils ne furent point appelés à être en dehors du monde, mais comme un peuple dans le monde. En conséquence, les Juifs eurent à combattre les Cananéens, et c'est pour cela aussi qu'ils avaient un temple magnifique. Parce qu'ils étaient un peuple qui était du monde, ils avaient un sanctuaire terrestre, littéralement mondain. Mais tout cela est entièrement faux pour des chrétiens, parce que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Lorsque Dieu fait connaître sa volonté, qu'il ne donne plus seulement sa loi, mais qu'il se révèle comme le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné, afin qu'il meure pour nos péchés, il en résulte un état de choses totalement différent. Nous entrons dans la relation consciente d'enfant avec Dieu, notre Père, et notre affaire maintenant, c'est d'honorer Christ selon la position qu'il a prise à la droite de Dieu. Nous oublions que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. Nous nous enfonçons dans le monde dont l'effet de la rédemption aurait dû être de nous délivrer, et cela vient de ce que nous nous sommes placés sous la loi. Si j'ai affaire à la volonté de Dieu, mon Père, mon privilège est de souffrir comme Christ a souffert. La loi met une épée dans les mains de l'homme, tandis que la volonté de Dieu fait que le chrétien est prêt à aller au bûcher ou à souffrir par l'épée à cause de Christ. Selon qu'il est écrit, « Pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. » Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais c'est par les souffrances, et non par les choses dans lesquelles le monde se glorifie. Dieu glorifie Christ selon le modèle de la croix, et c'est là notre modèle. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas la loi, mais c'est la croix de Christ. Et maintenant, voici, pour ainsi dire, le langage de Dieu. J'ai Christ dans le ciel. Je suis occupé de celui qui seul m'a jamais glorifié, et c'est celui dont vous devez être occupé. Rien ne saurait offrir plus d'exactitude, ni de plénitude, ni être plus de nature à faire face à ces dangers de nos jours, qui revêtent la forme de faire revivre le principe de la succession et les ordonnances religieuses comme moyen d'honorer Dieu. L'Écriture fait face à tous les cas, et un remède est donné pour cela dans la parole bénie de Dieu. Notre sagesse consiste à chercher à l'employer toute, à être simple quant au mal et sage quant au bien. La manière abrupte dont l'apôtre aborde immédiatement son sujet est à remarquer. Il venait de leur rappeler que le Seigneur s'était donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, et ceci avait amené quelques paroles d'action de grâces à Dieu, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 5. Mais maintenant, il en vient aussitôt au grand objet qu'il avait en vue. Son cœur en était trop plein, pour ainsi dire, pour employer plus de paroles que nécessaire. Il y avait ce qui était tellement fatal au fondement sur lequel l'assemblée, ou plutôt les chrétiens individuellement, doivent être placés devant Dieu, qu'il ne pouvait pas tarder. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent, verset 6. Les mots « vous passez » non pas « vous avez passé », indique qu'ils étaient en voie de passer. Ils étaient en train de changer de place et de s'éloigner de celui qui les avait appelés par la grâce de Christ. Le mal et le danger n'étaient pas encore si définitifs qu'ils ne puissent plus regarder à Dieu à leur sujet. Quand nous pensons que c'était l'apôtre Paul qui avait évangélisé ces âmes et qu'il n'y avait que peu de temps qu'il leur avait prêché, je ne connais pas de plus triste preuve de la facilité avec laquelle Satan trouve moyen d'égarer les âmes. Prenez même les enfants de Dieu qui ont reçu les meilleurs enseignements, et vous verrez pourtant les symptômes, qui ne manquent presque jamais de se montrer, d'un penchant vers ce qui est faible et faux, une promptitude à suivre des sentiments humains dans les choses de Dieu, détournée de la vérité par l'apparence, là où il n'y a point de réalité. Voilà les choses que vous trouverez, à moins qu'il n'y ait une puissance extraordinaire du Saint-Esprit pour arrêter les opérations de Satan. Les choses sans valeur qui peuvent être introduites avec le fondement dont l'apôtre parle dans 1 Corinthiens 3, du bois, du foin, du chaume, tout cela nous montre comment il peut se faire que, quoique ce soit Dieu qui a formé l'assemblée, il y a un autre aspect de l'assemblée dont il faut tenir compte, et c'est celui de l'homme. Paul parle de lui-même comme d'un sage architecte. À un point de vue, c'est Dieu qui bâtit l'assemblée, et en cela, rien ne peut faillir. Ce que le Seigneur a pris en main directement, il le maintient infailliblement par sa propre puissance. Mais la responsabilité humaine entre dans cette grande œuvre, comme elle le fait dans presque toutes choses, sauf la création et la rédemption, où il ne peut y avoir de place que pour Dieu. Mais en toute autre chose, quelque bénie qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'appel des âmes à l'Évangile, ou de les diriger après qu'elles ont connu le Seigneur, ou du rassemblement des enfants de Dieu en un seul corps, l'Église, l'homme y a sa part, et il n'y apporte que trop certainement la faiblesse de sa nature. L'histoire que Dieu nous donne dans la Bible, c'est que dans tout ce qu'il a confié aux mains de l'homme, l'homme est faible et tombe. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent. Or, après tout, c'est là l'histoire, non seulement de l'Ancien Testament et des différentes voies dans lesquelles Dieu a éprouvé l'homme, mais même là où vous avez le sujet infiniment plus béni du Nouveau Testament, ce que Dieu est en son Fils et dans ses voies avec les hommes par son Fils, depuis que le Seigneur est monté au ciel et que le Saint-Esprit a été envoyé ici-bas, même par rapport à ces choses, nous avons la faiblesse de l'homme qui se montre immanquablement. Et ce n'est pas seulement que des hommes inconvertis ont trouvé moyen de se glisser dans l'Église, mais les enfants de Dieu ont aussi la chair en eux. Ils ont leurs sentiments humains et leurs infirmités humaines. Ils ont ce que Satan peut trouver dans tout chrétien et dont il peut se servir pour empêcher ou obscurcir la puissance de Dieu. C'était par de tels moyens que les saints de la Galatie avaient été égarés et que tous sont en danger de l'être, à quelque moment que ce soit. Je retire de là deux importantes leçons. La première, c'est de ne pas être surpris s'il y a un abandon de la vérité parmi les saints de Dieu. Je ne dois pas me permettre un seul instant de penser que cela montre la moindre faiblesse dans la vérité elle-même ou dans le témoignage qui nous est confié, ni que cela jette le discrédit sur ce qui est de Dieu, car il se peut que Dieu tolère ce qui est contraire à sa propre nature et permette, pour un temps, que l'homme montre ce qu'il est, mais aussi sûrement il y a ce qui est selon Dieu. Dieu se justifiera en cela, et il permettra que ce qui n'est pas de lui montre son vrai caractère. Mais une autre chose que nous apprenons, c'est que nous sommes appelés à veiller et à nous juger nous-mêmes. À ces Galates qui, autrefois, étaient si zélés, qui auraient arraché leurs yeux dans leur amour pour Paul, ce même apôtre doit maintenant écrire « Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » Remarquez le choix d'expression « la grâce de Christ », car ce que Satan employait, c'était un mélange de la loi et de la grâce, de l'égalisme et de Christ. Ce qui avait caractérisé leur appel, c'était, simplement et uniquement, la grâce de Christ. Dieu avait fait connaître aux Galates qu'ils étaient des pauvres pécheurs d'entre les nations, qu'il n'y avait rien pour eux sinon la miséricorde, et que la miséricorde était venue jusqu'à eux en la personne de Christ. Et si c'est là la seule chose à laquelle il invite les âmes à accepter la miséricorde qu'il leur donne en Christ, cela suppose qu'elles sentent leur besoin de miséricorde et qu'elles sont prêtes à regarder à Christ et à nul autre. Mais il n'en demeure pas moins vrai que c'était uniquement la grâce de Christ qui avait agi sur ces croyants de la Galatie. Et c'est là ce qu'il leur rappelle. À quoi passait-il maintenant ? À un évangile différent qui n'en est pas un autre, verset 7. Si la grâce de Christ était la source et la puissance de leur appel, l'évangile en était le moyen. Mais maintenant, ils avaient abandonné cet évangile pour quelque chose de différent. Remarquez qu'il ne dit pas « contraire à l'évangile », mais un évangile différent, et pour cette raison même, il dit qu'il n'en est pas un autre. Il était indigne d'être appelé un autre évangile. Dieu n'en reconnaît qu'un seul. Il ne permet aucun compromis au sujet de l'évangile, et nous ne le devrions pas non plus. Cela peut paraître étrange à certaines personnes, et peut-être trop fort, mais je suis absolument convaincu que le même mal qui opérait alors parmi les Galates est maintenant en activité universellement dans la chrétienté. Il peut prendre une forme quelque peu différente d'un lieu à un autre, mais de quelque côté que vous vous tourniez, partout où vous voyez que l'on parle sur l'Écriture, ou que la profession extérieure de Christ est maintenue sous la forme d'institution chrétienne, vous trouverez qu'on mêle, d'une manière ou d'une autre, la loi avec la grâce de Christ. Peu importe le nom donné aux gens, c'est la même chose partout. Il y a des différences de degré. Les uns sont plus ouverts, d'autres plus intelligents, d'autres plus systématiques à cet égard, mais le même poison, ici délayé, là concentré, se trouve partout, et à un tel point que la vérité sur ce sujet offre un son bien étrange aux oreilles des hommes. Comme preuve de cela, je prends une simple expression que nous rencontrerons dans les diverses épîtres de Paul, la justice de Dieu, à l'égard de laquelle règnent les idées les plus erronées. On peut se réjouir en apprenant que des personnes prêchent Christ, ou même la loi, parce que Dieu se sert de la prédication de la loi pour convaincre bien des pécheurs. Toutefois, nous ne devons pas supposer, parce que Dieu agit même lorsque ce qu'on prêche est un évangile perverti, que les enfants de Dieu doivent traiter l'erreur légèrement. C'est une chose de reconnaître que Dieu opère d'une manière souveraine, c'en est une autre, quand la question pour nous est de savoir quel est son véritable témoignage. Alors nous sommes tenus en conscience de ne jamais rien admettre, sinon la simple et complète vérité de Dieu pour nos propres âmes. On ne devrait jamais écouter aucune chose autre que cette vérité, et la vérité peut éviter d'entendre l'erreur. Je ne parle pas maintenant des méprises qu'on peut faire en prêchant. Se tromper ou manifester de l'ignorance, ce n'est pas pervertir l'Évangile. C'est une chose d'écouter ce qui peut n'être qu'une méprise, mais aller où l'on sait d'avance qu'il y a un mélange de la loi et de Christ, c'est péché. On pourra dire, c'est là un langage trop fort, que rien ne peut justifier. Mais, je le demande, est-ce que je vais m'ériger en juge du Saint-Esprit? Car il faut rappeler que ce que l'apôtre écrivait, il ne l'écrivait pas comme un simple homme, mais que c'était ce que le Saint-Esprit écrivait pour notre instruction. Et voici ce qu'il nous dit. Il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait, outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème, versets 7 et 8. qu'une personne impartiale pèse des paroles comme celle-ci, et qu'elle juge ensuite si, en aucune façon, je puis employer un langage qui insiste trop fortement sur le devoir d'une personne chrétienne par rapport à une perversion du témoignage de l'Évangile. Car c'est là ce qui s'introduisait parmi les Galates. Vous me direz peut-être qu'il y avait plus, que chez eux c'était le mélange de la loi cérémonielle avec la grâce, tandis qu'aujourd'hui c'est la loi morale que l'on maintient. Je ne puis dire qu'une chose, c'est que cela est encore pire et plus mortel, parce que la loi cérémonielle peut être représentée comme typique de Christ. Mais la loi morale introduit, sous une forme ou une autre, ce que l'homme fait. Alors que la seule signification de toutes les formes ou cérémonies judaïques est invariablement dans leur relation avec Christ. Si je considère les institutions chrétiennes de nos jours, je dis qu'il n'y a aucune vertu dans l'eau du baptême, ni dans le pain et le vin de la scène, sinon dans la chose qu'ils représentent. Le fondement est ôté dès que l'on introduit quelque chose d'autre que Christ pour justifier un homme. Et Christ doit m'être plus cher que toute autre chose, plus cher même que ses institutions. Être occupé de Christ, c'est la meilleure de toutes les preuves d'une âme sauvée. Mais je n'admets pas qu'il y ait un vif attachement pour Christ quand une âme connaît sa volonté en quelque chose et que cette volonté n'est pas devenue pour elle de la toute première importance. Quand des saints de Dieu ont appris la vérité avec simplicité et sont rendus capables de la retenir fermement, il vient un temps d'épreuve. Peut-être y a-t-il beaucoup de faiblesses et d'infidélités parmi ceux qui possèdent la vérité, et les gens disent « je ne vois pas que ceux qui possèdent cette vérité valent tellement mieux que leurs voisins ». Mais il y a cette différence entre la faiblesse de la conduite de ceux qui possèdent la vérité et l'état de ceux qui ne la possèdent pas, c'est qu'on peut y remédier, tandis qu'il est impossible de changer le mensonge en vérité. Il n'est aucune puissance sur la terre qui puisse extirper le légalisme de l'état des choses dans la chrétienté. Il faut que les systèmes religieux qui sont établis cessent d'être des systèmes terrestres s'ils abandonnent la loi. Vous ne pouvez réformer une chose dont les fondations sont totalement défectueuses. Ce qui est construit dessus peut être enlevé, mais si les fondations sont sans valeur et fausses, on ne peut jamais y remédier. Il n'y a qu'une seule marche à suivre, c'est d'abandonner tout à fait cela. Je dis que ceux qui voient ces choses le doivent à notre Seigneur et Maître, le doivent à la vérité et au sein de Dieu, de montrer une séparation entière et sans concession d'avec tout ce qui détruit la pleine vérité de cette grâce de Christ. Nous pouvons supporter individuellement ceux qui n'en savent pas davantage. D'un autre côté, si vous voyez dans un corps religieux une personne bien mondaine, je crois que c'est une chose malséante que de s'attacher aux individus et de reprendre des abus, tels qu'un prêtre qui va à la chasse ou qui entonne bien. Nous avons beaucoup mieux à nous occuper que de faire des remarques sur des membres du clergé qui se livrent à la danse. De telles choses peuvent être dignes de l'attention du monde. Mais c'est très différent lorsque ce qui est faux est prêché. Alors nous devrions chercher à délivrer tout enfant de Dieu de la mauvaise influence, qu'il est pénible de penser qu'il en est qui sont tenus de prêcher la loi, et tellement tenus qu'il manquerait de droiture s'il ne le faisait pas. Ce que Dieu donne, ce n'est pas simplement un remède, mais une délivrance d'un tel état de choses. Si nous croyons la parole de Dieu, si nous croyons ce que le Saint-Esprit dit sur ce sujet de la manière la plus solennelle, nous devrions en avoir fini entièrement avec cela. Il peut s'agir d'hommes vraiment pieux, qui sont comme enchaînés, mais nous parlons du danger qu'il y a de mêler la loi avec l'Évangile, et c'était le mal parmi les Galates. Considérons quel est l'avertissement que le Saint-Esprit adresse aux âmes qui étaient prises au piège par cela. Les gens peuvent vous dire qu'ils savent comment séparer le bon du mauvais, mais Dieu est plus sage que les hommes, et un homme spirituel discernerait qu'une âme recule là où de telles choses sont admises. Cela explique la force extraordinaire de l'avertissement de l'apôtre. Ils étaient ses propres enfants dans la foi, et quant à ceux qui les bouleversaient et les troublaient, il était en perplexité à leur sujet. Voici ce qu'il dit, peu importe à qui cela s'applique. Si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème, verset 8. Et, quand nous-mêmes ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème, verset 9. Voilà où ils auraient pu chercher un refuge. Sans doute c'était ce que Paul prêchait, mais nous avons des vérités additionnelles outre ce que Paul donne. Mais il dit, si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ce n'est pas seulement ce que j'ai prêché, mais ce que vous avez reçu. Ce n'est pas seulement qu'il ne devait rien y avoir de mêlé avec ce qu'ils prêchaient, mais rien ne devait être ajouté à ce qu'ils avaient reçu. Nous avons ce que l'apôtre Paul écrivait aussi clairement qu'ils avaient ce qu'ils prêchaient. Il n'y a point de différence, sinon que ce qui est écrit a même une plus grande autorité comme moyen employé que ce qui était verbal. Dans ce dernier cas aussi, ce qui est de la nature pourrait s'introduire. L'apôtre eut à confesser, en certaines occasions, qu'il avait parlé précipitamment, jamais qu'il avait ainsi écrit. Il n'était pas question d'ôter l'Évangile, mais d'ajouter à l'Évangile ce qui était de la loi. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu ? Verset 10. C'est-à-dire, cherchait-il à les gagner eux ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes ? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Il savait bien que ce genre de témoignage sans compromis le rendait particulièrement désagréable aux hommes et produisait même de l'hostilité parmi de véritables saints de Dieu. Aussi maintenant, la même chose serait appelée un manque de charité. En effet, il n'y a pas de manque de charité à parler sans faire des concessions, mais c'est juger ceux qui en font. Il dit que c'est la manière de complaire non à des hommes, mais à Dieu. C'est de cette manière même que Christ l'avait appelé à être serviteur. Or, je vous fais savoir, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car moi je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ, versets 11 et 12. Il y avait, sans doute, quelque chose d'extraordinaire dans la manière dont l'apôtre Paul avait reçu la connaissance de l'Évangile. Il ne fut pas converti par la prédication de l'Évangile, comme le sont la plupart. Le cas de Pierre fut semblable. La chair et le sang ne lui avaient pas révélé cela, mais le Père qui est dans les cieux. Pierre fut la première personne à qui fut annoncée la gloire de la personne de Christ, à qui fut annoncée cette gloire non comme liée seulement avec les prophéties relatives aux Juifs, mais la gloire plus profonde de Christ, comme les chrétiens devraient le connaître maintenant, comme le Fils du Dieu vivant. Non en rapport avec la terre exclusivement. Pierre fut le premier à qui le Saint-Esprit révéla la grande vérité, que Jésus était non seulement le Messie, mais le Fils de Dieu, dans un sens céleste et divin. Pierre, donc, fut honoré de Dieu, et placé par notre Seigneur dans une position bien spéciale. Il fut celui à qui notre Seigneur fit la première mention de son assemblée. Dans le cas de Paul, la vérité allait plus loin. Car si nous avons le Père révélant le Fils à Pierre, Paul va encore au-delà et dit que Dieu a révélé son Fils en lui. Pierre aurait pu dire « Il a plu au Père de me révéler son Fils ». Paul pouvait dire « en moi ». Paul fut amené par le Saint-Esprit à une connaissance graduellement croissante de la vérité, grande et très glorieuse de l'union du croyant avec Christ. Mais la chose n'est pas présentée ici. Toutefois, l'expression « de révéler son Fils en moi » n'aurait guère pu être employée par quelqu'un qui ne connaissait pas cette vérité. Ainsi, dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre parle des croyants comme ayant une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, quoique l'Épître aux Hébreux ne révèle pas que nous sommes membres du corps de Christ. Toutefois, nous ne pourrions être exhortés à entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus si nous n'étions pas membres de son corps, de sa chair et de ses os. S'il n'en était pas ainsi, Paul n'aurait pu dire « il plut à Dieu de révéler son Fils en moi ». Cela est lié avec la vérité dont Paul a été le témoin élu, l'union de Christ et de l'Assemblée, sous-entendue à l'époque même de sa conversion. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il persécutait les saints, et le Seigneur dit « les persécuter, eux, c'est me persécuter, moi. » Ils étaient un, l'Assemblée et le Seigneur sont unis. Nous sommes membres, non de la divinité de Christ, mais de son corps. Ce n'est que comme homme qu'il a un corps. Et pendant qu'il était un homme sur la terre, nous n'étions pas des membres. À moins que le grain de blé ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire que c'est sur le fondement de la mort et de la résurrection de Christ qu'il peut en associer d'autres avec lui-même, comme les membres de son corps, de sa chair et de ses os. Christ, dans le ciel, et les saints sur la terre, forment un seul corps. C'est là ce que Paul apprit lors de sa conversion. Ayant en vue la substance de cela, l'apôtre dit « Or je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. » Verset 11. Et permettez-moi seulement de mentionner encore une chose ou deux en rapport avec l'évangile de Paul. Il est le seul qui caractérise son évangile comme étant l'évangile de la gloire. Et il est intéressant de savoir que, lorsque l'apôtre emploie cette phrase, il ne dit pas le glorieux évangile, comme on le traduit souvent. Il dit l'évangile de la gloire. Et voici la vraie force de cette expression. C'est l'évangile de Christ glorifié à la droite de Dieu. C'est la bonne nouvelle que nous avons un Sauveur qui est ressuscité et glorifié. Nous sommes appelés à participer à tous les effets de sa gloire, comme à tous les effets de sa mort sur la croix. Jamais aucun autre apôtre n'a écrit sur le sujet de l'Assemblée « Faites une avec Christ ». Paul seul l'a fait. Il est donc possible que Paul était le seul en position de dire « Si quelqu'un ajoute quelque chose à mon évangile, qu'un tel homme soit anathème ». Quoique Paul ait ajouté quelque chose à leur évangile, il ne pouvait rien ajouter au sien. Les apôtres annonçaient Christ comme le Messie et faisaient connaître la rémission des péchés par son nom, mais ils ne proclamaient pas la gloire céleste de Christ comme le fit Paul. Il proclama toutes ces vérités et d'autres encore dont ils ne firent jamais mention. C'est la raison pour laquelle il dit si constamment « mon évangile ». En effet, tandis qu'il ne pouvait naturellement y avoir aucune différence quant aux grandes vérités de l'Évangile, entre ce que Paul prêchait et ce que les autres apôtres prêchaient, il y avait dans ce que Paul prêchait une grande avance sur eux. Il n'y avait rien de contradictoire. Mais Paul, ayant été appelé après l'ascension de notre Seigneur au ciel, il était celui auquel il appartenait spécialement de faire quelque addition. Jusqu'à ce que Paul ait été appelé, il fallait encore quelque chose pour compléter la somme totale de la vérité révélée. En Colossiens 1, verset 25, il dit qu'il était devenu serviteur de Christ pour compléter la parole de Dieu, pour combler un certain vide qui n'était pas encore rempli.
L'assemblée de laquelle moi je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous, pour compléter la parole de Dieu.
Paul a été la personne employée par le Saint-Esprit pour le faire. Jean proclama des vérités prophétiques, des prophéties entièrement en dehors de ce dont nous venons de parler, car elles révèlent les voies de Dieu avec le monde et non avec l'assemblée. C'est pourquoi l'apôtre pouvait insister sur le danger de toute tentative de s'écarter de ce qu'il avait annoncé ou d'y ajouter quelque chose. Cela est très important. D'autres pouvaient ne pas prêcher toute la vérité, mais ce n'est pas là ce qu'ils dénoncent si fortement. Personne ne devrait être condamné parce qu'il ne développe pas les vérités plus élevées que Dieu a données. Ce à quoi nous devons résister en face, c'est l'introduction de quelque chose de contraire à l'Évangile, ou le mélange de la loi avec la grâce de Christ, ce qui serait mettre le vin nouveau dans de vieilles outres. Il en est qui peuvent alléguer l'épître de Jacques, mais Jacques ne présente jamais la loi de manière à la mettre en opposition avec l'Évangile, bien que ce qu'ils disent puisse mettre les âmes en garde contre un mauvais usage du solennel avertissement du Saint-Esprit à l'égard du mélange de la loi avec l'Évangile, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. Nous aurons bien des occasions de montrer comment l'apôtre Paul se réfère à ce sujet dans cette épître. Le point auquel il fait ensuite allusion dans son argument, c'est sa conduite et sa vie antérieure. Il dit, en parlant de son évangile, qu'il ne l'avait pas reçu de l'homme, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ, verset 12. Ils auraient pu élever des doutes à ce sujet, mais il montre que toute sa vie antérieure avait été opposée à l'évangile. Il n'y avait aucun autre adversaire de Christ pareil à lui. Car vous avez ouï dire quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais outre mesure l'assemblée de Dieu et la dévastais. Il peut y avoir ici un petit mot à leur adresse, parce qu'ils commençaient à persécuter ceux qui s'opposaient à leurs idées sur la loi et à montrer un esprit d'acharnement. Et comment j'avançais dans le judaïsme, plus que plusieurs de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères, versets 13 et 14. Il n'y avait donc aucun doute de la sincérité avec laquelle l'apôtre avait usé de la loi pendant qu'il était inconverti. Mais quand il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les nations, aussitôt je ne pris pas conseil de la chair ni du sang, versets 15 et 16. Ici, il introduit aussitôt une masse de vérités qui, s'ils en avaient seulement compris la force, comme sans doute quelques-uns la comprirent, ruinaient tout leur système de fond en comble. Il montre que c'était Dieu qui l'avait appelé hors de la loi, lorsqu'il était au milieu même de ce qu'il commençait à établir de nouveau, il était un ennemi de Christ. Il tient tout à fait compte de son histoire providentielle. Il avait été élevé au pied de Gamaliel, et il avait avancé dans le judaïsme plus que ceux de son âge. Mais, quoiqu'il ait plu à Dieu de le mettre à part dès le ventre de sa mère, toutefois de l'appeler, il insiste là-dessus, était encore beaucoup plus. Cet appel venait de la grâce. Aussitôt, je ne pris pas conseil de la chair ni du sang. Ici, ils renversent leur légalisme, à la fois positivement et négativement. Ils avaient été appelés pour prêcher parmi les gentils, là où l'on ne connaissait pas de loi. Il n'y avait absolument aucune parole de la part de Dieu pour qu'ils montent à Jérusalem. Et pourtant, c'était à une chose de ce genre qu'ils désiraient revenir. Il en est de même de nos jours. La plus petite secte sous le soleil a une espèce de Jérusalem, un centre auquel il faut envoyer un ministre, afin de le qualifier pour ce qu'il a à faire. Mais lorsqu'on a recours à cela dans le dessein de faire ressortir la gloire de Christ, cela ne se trouve produire que la mort. Bien des personnes ont pris conseil de la chair et du sang, et sont montées à cette montagne ou à cette ville, et leur âme a complètement décliné, et s'est éloignée de la croix de Christ. Et maintenant, elles deviennent les plus ardents zélateurs de cette loi même, dont elles avaient été délivrées. mais la marche simple est le sentier de la dépendance du Dieu vivant. Ainsi donc, quelque valeur qu'aient pour le monde ces écoles de formation, quelque admirable qu'elles soient pour donner aux hommes une certaine position, la chose aboutit seulement à ce que l'homme peut enseigner, et non à ce que Dieu donne. Moïse avait pensé qu'après avoir passé 40 ans en Égypte, il était à même de délivrer le peuple de Dieu, mais il eut à apprendre que ce n'était qu'après avoir été enseigné de Dieu dans le désert qu'il fut capable de conduire le peuple hors d'Égypte. En général, il est nécessaire pour Dieu de faire passer les âmes par un crible, de les briser dans leurs propres opinions, s'il doit se servir d'elles d'une manière réellement honorable. Vous voyez ici Dieu lui-même, lorsqu'il appelle un homme remarquable à une œuvre toute spéciale, l'envoyer dans le désert au lieu de le faire monter vers les apôtres à Jérusalem. Il y a une chose telle que d'aider non seulement les saints, mais encore ceux qui prêchent dans la vérité. Et l'apôtre Paul exhorte Timothée, quant aux choses qu'il avait reçues, de les commettre à des hommes fidèles, qui soient capables d'instruire aussi les autres. Il y a des instruments humains pour aider dans leur voie ceux qui sont plus jeunes dans l'œuvre du Seigneur. Ainsi, nous devons laisser la place pour les diverses voies de Dieu, évitant seulement avec soin les innovations humaines et la présomption humaine, qui ne peuvent jamais édifier les hommes, pas plus qu'elles ne peuvent glorifier Dieu. Et je ne montai pas à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allai en Arabie, et je retournai de nouveau à Damas. Puis, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai chez lui 15 jours, verset 17-18. Il fait mention du nombre de jours pour montrer que ce n'était pas un cours d'instruction qu'il avait reçu. Or, dans les choses que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Ensuite, j'allais dans les pays de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en Christ. Mais seulement elles entendaient dire, « Celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruisait jadis, et elle glorifiait Dieu à cause de moi. » Verset 20 à 24. Ces faits avaient de l'importance pour démontrer combien peu de temps il avait passé à Jérusalem, et même qu'il était inconnu aux assemblées de la Judée en général. Mais ces assemblées, au lieu de blâmer Dieu, car c'est à cela que se réduisait la conduite des Galates, au lieu de trouver à redire à son témoignage, avaient glorifié Dieu en la personne de Paul. Les premières assemblées de la Judée, que les Galates considéraient avec une telle envie, glorifiaient Dieu en lui, tandis que, quant à eux-mêmes, ils s'élevaient contre la riche miséricorde que Dieu venait de montrer envers les nations. Il leur avait prêché l'Évangile plus pleinement que les autres apôtres ne l'avaient présenté, et pourtant ils s'en écartaient déjà, en cherchant à introduire la loi. Paul sentait que la chose, par sa nature même, était si mortelle que même si les âmes détournées par elle pouvaient ne pas être perdues, il n'en résultait pas moins un profond déshonneur pour Dieu et un dommage incalculable pour ses saints. Il pensait, sans doute, que leur voie était une voie bien plus sûre, mais l'apôtre affirme qu'il leur avait apporté la vérité de l'Évangile et que mêler la loi avec cet Évangile, c'était le renverser absolument. Combien tout cela est applicable aux besoins des âmes dans un temps comme le nôtre. Nous ne devons pas nous imaginer qu'il y avait un mal plus profond dans la Galatie que celui qui est en activité maintenant. Au contraire, ce n'était là que les germes de ce qui s'est développé beaucoup plus depuis ce temps-là. Que le Seigneur nous donne de rendre nos visages semblables à un caillou contre tout ce qui tente à endommager la conscience, et nous garde d'admettre aucune chose que nous savons être contraire à sa volonté et à sa gloire.